Bonjour à toutes et à tous, ici Colline au micro, il est midi 10 et si je prends la parole à cette heure-ci, c'est parce que hier était le premier jour du printemps et pour l'occasion, Bastien et Sophie se sont déplacés hors de la radio à la ferme du Grand Laval pour un échange et regard spécial. Bastien et Sophie, est-ce que vous m'entendez de là où vous vous trouvez?
Très bien Colline, très très bien, c'est parfait. Merci beaucoup à toi pour cette prise de direct.
Il y a un avion qui passe, je disais pardon, et derrière nous, des poules et des dindons, Sophie. Hein.
Mais dis pas tout, parce que j'ai
mon intro. Pardon, excuse.
Effectivement, on est dans un lieu un petit peu particulier, on va y revenir, et c'est très très agréable. On te laisse envoyer, Colline ?
Mais pas de soucis.
Super, merci beaucoup. Bien, bonjour à tous, bienvenue dans Échange et Regards, notre magazine local et culturel. C'est officiellement le printemps depuis hier. Alors pour ce nouveau numéro, tous dehors, mais pas n'importe où. Nous sommes accueillis dans un très bel endroit, la ferme du Grand Laval située à Montélier et plus précisément dans son verger entouré de poules comme on vous le disait juste avant. Un lieu de biodiversité et de réensauvagement qui allie protection et production issue de la nature. Et c'est donc bien entouré que nous allons décrypter l'animal emblématique du printemps, c'est l'oiseau. Et puis bien entouré humainement également, car nous recevrons dans cette émission Simon Piquet qui travaille à la Ligue de protection des oiseaux en tant que service civil. Et puis Maxime Zucca au micro de Bastien Hénard. Il est ornithologue, écologue et membre du Conseil national de protection de la nature. Eh bien bonjour à vous tous.
Là, salut Sophie. Nos invités sont assis par terre, mais nous aussi. Dans l'herbe, on est pas mal quand même.
C'est l'émission qu'on voulait pour le printemps.
Ouais, c'est celle-ci.
Ailleurs, avec. Alors oui, on entend un petit peu de l'activité humaine si vous entendez un avion qui est passé, mais quand ça c'est parti. On est vraiment bien, on entend les oiseaux, des grenouilles, des poules. Donc ne soyez pas surpris, chers auditeurs, si pendant l'émission, voilà, il y a des bruits inhabituels, ils ne sont pas dans le studio. Je commence cette première partie d'émission avec vous, Simon Piquet. Bonjour.
Bonjour.
Donc je le disais, vous travaillez à la Ligue de protection des oiseaux, LPO, en tant que service civique. Alors, allez, on entame tout de suite notre sujet avec le lien oiseau-printemps. Quels oiseaux ici, dans la Drôme, on peut particulièrement entendre avec l'arrivée du printemps?
On peut entendre déjà tous les oiseaux qui ont décidé de rester en France pendant l'hiver. Donc, c'est-à-dire les merles, les fauvettes, etc., les pouillots. Vu que c'est le printemps, ils ont déjà tous plus ou moins commencé à chanter. Et en ce moment, c'est aussi la migration des oiseaux. Si jamais il fait beau et que le ciel est dégagé, vous pourrez peut-être voir encore quelques cigognes passer ou des goélands passer, etc. Et on peut du coup entendre certains oiseaux qui commencent à migrer, qui sont déjà arrivés sur leur site de nidification. Donc je pense par exemple à la huppe faciée que pas mal de personnes connaissent. Ou dans les villes, il y a aussi par exemple les martinets qui ne vont pas tarder à revenir. Ou les hirondelles qu'on devrait pas tarder à entendre.
Oui, donc vous dites observer parce qu'on peut préciser, hein, vous êtes arrivé jumelles autour du cou pour tout de suite dégainer les jumelles dès que vous voyez passer quelque chose dans le ciel. On peut faire ça nous aussi.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas peut-être pas à donner à tout le monde parce qu'il faut déjà avoir des jumelles, il faut aussi avoir des connaissances. Mais en soi, juste en allant se balader un peu dans la nature, je suis sûr que beaucoup de personnes pourront voir des oiseaux ou même juste simplement les entendre, notamment les chants, etc. Là, ça chante vraiment pas mal autour de nous. On a des pouillots véloces, on a des merles, des fauvettes à tête noire. Et c'est vraiment sympa et même si on n'arrive pas à les voir, on peut
déjà
les entendre.
Tout à fait. Parce que c'est un peu l'idée là, de parler effectivement de ce qu'on entend, parce que c'est pour ça aussi qu'on associe effectivement l'oiseau à l'arrivée du printemps, parce qu'on les entend chanter. Et c'est vrai que là, le matin, on se réveille et partout, on entend beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, Simon, que représente le printemps pour les oiseaux ?
Alors le printemps c'est le retour des beaux jours, il commence à faire de plus en plus beau, de plus en plus chaud et les insectes commencent à sortir, là il y a pas mal de papillons qui volent, des abeilles etc. Et le truc c'est que il y a pas mal d'oiseaux qui descendent en Afrique pour hiverner, du coup c'est les oiseaux migrateurs et dès que les conditions sont meilleures, alors ça c'est dû à un... une combinaison de critères, le soleil qui se lève de plus en plus tôt, les températures qui commencent à se réchauffer, etc. Et donc, une fois que ces conditions-là sont réunies, les oiseaux vont d'instinct commencer à monter vers le nord pour aller dans des contrées où la nourriture est plus disponible et où il y a moins d'oiseaux pour nicher. Donc, en fait, ils sont tous, enfin, pas tous, mais la plupart des oiseaux migrateurs sont en Afrique l'hiver. Et dès que les conditions sont bonnes, bah, les oiseaux qui ont évolué comme ça et qui ont commencé à migrer vers le nord vont migrer vers le nord, tandis qu'il y a des oiseaux qui vont rester en Afrique pour nicher.
Et est-ce que à la LPO, Ligue de protection des oiseaux, vous constatez des changements de ces comportements par rapport au réchauffement climatique, donc qui peut jouer, j'imagine, donc sur les températures, les périodes de température. Est-ce que vous constatez dans vos observations des changements de comportement chez les oiseaux?
Ouais, tout à fait. Alors il y a plusieurs changements. Il y a des oiseaux déjà qui viennent de moins en moins en France parce que les hivers sont de plus en plus chauds. C'est notamment des oiseaux à afflux. Donc par exemple, il y a des plongeons qui sont des oiseaux marins qui descendent en France l'hiver. Et il y en a qui pourraient commencer à descendre de moins en moins parce qu'il fait de plus en plus chaud en été. Mais ce n'est pas uniquement ça, il y a aussi des oiseaux qui descendaient hiverner. Je vais prendre l'exemple des cigognes dans les années 2000, donc au début du 21e siècle. Il y avait pas beaucoup de cigognes en France et la plupart des cigognes qui étaient en France passaient des périodes de migration pour descendre hiverner en Afrique. Et là, en 2023-2024, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de cigognes qui descendent hiverner jusqu'en Afrique. Et il y en a beaucoup qui restent dans la Dombe, donc dans l'Ain. Il y en a aussi qui hivernent en Camargue. Et c'est le cas avec pas mal d'oiseaux. On a de plus en plus d'observations de huppes faciées qui restent hivernées en France. Ou d'hirondelles rustiques, par exemple. Alors ça, c'est quand même un peu plus rare. Mais il y en a de plus en plus qui commencent à hiverner en France parce que les températures sont clémentes et qu'il y a assez de nourriture pour elles.
Oui, vous parliez de la cigogne, c'est vrai qu'à Valence, en tout cas, dans la Drôme, mais particulièrement à Valence, on voit souvent effectivement les cigognes passer. Pour nous, c'est un oiseau migrateur qu'on identifie bien. Donc, par exemple, à la LPO Drôme, on va constater une observation en baisse. Enfin, on observe moins de cigognes, c'est ça
Alors,
vous dites qu'on voit moins passer, par exemple, de cigognes.
Alors, c'est pas forcément ça, en fait, parce que l'exemple des cigognes que j'ai pris, c'est qu'en fait, elles descendaient donc en migration après la période de nidification. À l'époque, il y en avait beaucoup qui descendaient en France, mais avec la protection de ces cigognes, avec la mise en place de protection sur l'espèce, etc., le nombre de cigognes a augmenté. Et donc, la période de nidification qui est là, pendant cette période-là, on voit beaucoup de cigognes qui migrent. Si je ne dis pas de bêtises, sur le site de migration de Pierre-Aiguille, ils en ont fait à peu près 20 000, ce qui est très très bien. Mais les cigognes, on les voit pas moins, on les voit plus, mais c'est juste qu'on peut en voir moins descendre parce qu'elles auraient décidé de rester en France.
Très bien, je comprends. Alors le printemps, c'est aussi une période active pour de nombreux animaux, hein, pas que pour les oiseaux. Et quels animaux, la LPO, vous surveillez particulièrement à cette période-là, en plus des oiseaux?
Alors en ce moment, moi je vais me baser sur mes missions parce que je suis sur plusieurs missions. Il y a premièrement des missions de suivi de rapaces, donc pour rester sur les oiseaux. C'est la période de nidification en ce moment des rapaces, et donc on a plusieurs endroits sur les monts du Matin où il faut que je passe régulièrement pour voir si jamais certains oiseaux nichent ou pas. Et pour sortir des oiseaux, on a un suivi de migration des amphibiens, parce que les amphibiens migrent aussi. C'est sur un site à Morat-Saint-Valoir, donc un peu au nord de Haute-Rive, où là, pendant le début de l'hiver, donc là jusqu'au 15 avril, on a mis des filets pour éviter que les amphibiens se fassent malheureusement écraser en passant sur une route. Et donc tous les matins, il faut qu'il y ait un bénévole qui passe relever ces filets, identifier les amphibiens et les faire passer dans les mares pour qu'ils puissent se reproduire.
Parce que pour préciser, ils migrent de la forêt, c'est ça,
ouais,
de zones comme
tout
ça,
à fait, ouais,
vers les zones humides, les mares, pour pouvoir se reproduire.
Voilà.
Donc effectivement, traversent des routes qui ne sont pas équipées pour les amphibiens.
Non.
Donc votre mission, amphibiens et rapaces.
Tout à fait. Et après, j'accompagnerai les salariés sur d'autres missions d'expertise naturaliste.
Et Simon, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils aux auditeurs sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire en cette période de printemps par rapport aux animaux ?
Ouais, tout à fait. Alors déjà, il y a les classiques, éviter de tondre un maximum, éviter de tailler les haies un maximum parce que c'est la période de nidification et donc ça pourrait détruire des nids ou juste empêcher des oiseaux de s'installer. Et il y a aussi d'autres petites conseil que je pourrais donner, déjà, c'est d'arrêter de donner de la nourriture aux oiseaux ou alors de la réduire drastiquement pour ceux qui voudraient quand même observer les oiseaux. Parce qu'en fait, là, les oiseaux réussissent à trouver de la nourriture par eux-mêmes parce qu'il fait chaud, parce que les insectes sortent. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'acclimater les oiseaux à de la nourriture gratuite, entre guillemets.
Il faut qu'ils trouvent par eux-mêmes ce qu'ils ont à manger et puis ce qui se trouve sur place.
Tout à fait.
J'imagine. Si on revient un petit peu au chant des oiseaux dont on parlait tout à l'heure, à la LPO, vous organisez des excursions, des choses pour aller écouter les oiseaux.
Oui, tout à fait. Alors, ça dépend du coup des LPO locales. Donc en Dromardèche, sur le site internet, vous pourrez trouver plein d'informations sur des sorties nature qui sont organisées soit par les groupes locaux, qui sont donc, en fait, on a divisé le territoire de Dromardèche en plusieurs groupes pour dynamiser un peu plus. Par exemple, là, il y a une sortie LPO sur le groupe Val de Drôme le dimanche 24 mars à l'ENS du parc de Lorient à Montélégé. Il y aura, j'en suis sûr, d'autres sorties qui seront organisées pendant cette période estivale, pour observer des oiseaux, pour observer des papillons, ou pour faire des identifications communes. Donc en allant sur le site internet de la LPO ou en s'inscrivant sur la newsletter, vous aurez toutes les informations.
Et comme vous disiez tout à l'heure aussi, parfois il suffit d'être attentif, pas forcément besoin d'avoir des connaissances ou des techniques particulières. Ouvrir juste prendre le temps, parce que j'imagine qu'il faut aussi prendre le temps pour pouvoir entendre et voir.
Ouais, tout à fait. Prendre le temps et être curieux, je trouve que c'est les deux choses les plus importantes. Je pense qu'en n'étant pas curieux, on peut quand même réussir à observer des oiseaux, la faune, etc. Mais c'est en étant curieux qu'on va essayer d'aller voir le merle qui chante à travers les branchages, essayer d'aller voir les petits papillons qui volent, essayer de se renseigner sur quelle espèce c'est, pourquoi elle est là, etc. Et c'est cette curiosité qui fait qu'on observe de plus en plus de choses.
Merci beaucoup Simon Piquet de parler oiseaux avec nous aujourd'hui. Je vous propose un titre musical pareil dans cet esprit de printemps, de renaissance, avec le trio néerlandais Nits et leur mini-album donc de circonstances, car en fait ils parlent de l'incendie qui a complètement détruit leur studio à Amsterdam en 2022. Et donc ils renaissent un peu leur sens et un peu leur printemps avec ce mini-album qui s'appelle Treehouse Fire et le titre Birds.
When the days were old and gray and muddy, when the bicycles were black and rusty, I'm a little bird inside a hollow tree, looking at the world through a hole. My tree, oh, I've got one wing. I cannot fly, but I can sing. I hear the wind, I see the snow fall. I hear the rain, I see the sun shine. Oh, in my tree, I see the fireman. Oh, in my tree, I see the red flame. Oh, in my tree, I see the black smoke. When the days were old and gray and muddy, when the bicycles were black and rusty, woke up one jingle, jangle morning, the house next door is burning down.
Radio Méga 99.2 dans Échange et Regards et notre émission spéciale printemps. Je vais laisser le micro à mon collègue Bastien qui est en train de s'enraciner dans ce beau verger.
C'est bien, mais on est bien. Ah ouais, on est
et
bien,
qui accueille notre deuxième invité.
Pour installer un studio permanent ici dans ce verger. Merci Sophie et merci de nous avoir amené ici dans cette ferme du Grand Laval. Je suis avec Maxime Zucca. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ornithologue, écologue, membre du Conseil national de protection de la nature depuis avril 2017. Vous étiez au Muséum national d'histoire naturelle et entre guillemets, vous y êtes encore puisque vous collaborez encore avec eux. Commençons peut-être par définir des termes parce qu'ici, on emploie beaucoup de termes et finalement, on ne sait pas si on les emploie si bien que ça. Vous êtes donc ornithologue, c'est là-dessus qu'on va aller puisqu'on entend les oiseaux. Ornithologue, ornithorynx, il y a un rapport, vous allez me le dire. Et sinon, il fait quoi l'ornithologue?
Ben, c'est la racine ornitho qui veut dire oiseau en grec. Et effectivement, ornithorynx, c'était le bec d'oiseau. Donc, c'est cet étrange mammifère australien qui ressemble un peu à un croisement entre un canard et un castor.
On est pas mal.
Et donc, l'ornithologue est fréquemment confondu avec l'ornithorynx, comme le naturaliste est fréquemment confondu avec le naturiste. Il y a beaucoup de...
Ah oui, d'accord. Il y a des confusions. Donc, effectivement, il faut régler les choses. Alors, vous n'êtes pas un ornithorynx, voilà. Je le vois.
Ni naturiste,
l'ornithologue, quoique, il fait mais quoi on va en apprendre pas mal, on va voir que vous avez migré vous aussi vers la Drôme. Mais l'ornithologue, il fait quoi?
L'ornithologue, c'est vraiment celui qui étudie les oiseaux, c'est la science des oiseaux. Et j'ai évoqué le mot naturaliste parce que l'ornithologue est rarement strictement ornithologue. En général, quand on s'intéresse aux oiseaux, on s'intéresse aussi aux habitats dans lesquels ils habitent, aux espèces, aux insectes ou aux crustacés dont ils se nourrissent. Donc ça nécessite de toute manière d'avoir un regard très large sur les écosystèmes. Mais l'ornithologue, quand même précisément, il étudie les oiseaux, mais ce n'est pas un métier facile à classer. Il va y avoir des ornithologues qui font de la recherche, typiquement au Muséum d'histoire naturelle ou ailleurs. Il y a des ornithologues qui travaillent dans les associations de protection de la nature, comme Simon à la LPO. Il y a des ornithologues qui travaillent plutôt en bureau d'études pour des études réglementaires. Et puis, il y en a qui sont indépendants, écrivains, autres. Voilà, c'est un large spectre. Moi, je suis plutôt dans la dernière catégorie.
Écrivain, on se permet de rêver, en fait, aussi, quand on est ornithologue, j'imagine.
Complètement. Et moi, j'adore écrire. J'ai écrit tout un livre sur la migration des oiseaux il y a une douzaine d'années. Puis là, j'ai un projet sur les oiseaux en ville plutôt. Mais on peut effectivement raconter énormément de choses à la fois poétique et politique sur les oiseaux.
Alors, on va juste revenir, Maxime Zucca, sur vous. Vous étiez à Paris. Vous voilà dans la Drôme depuis 2 ans, Beaufort-sur-Gervanne, je crois, pas loin d'ici. Pourquoi vous partez ? À quel moment vous partez ? Est-ce que vous êtes un de ces... une migration Covid ?
Non. Non, non, migration amoureuse, parce que... voilà.
C'est beau. Vous restez dans le rêve, c'est très beau. Dites-moi, du coup, vous arrivez ici ?
Et j'arrive ici et sauf que je connaissais depuis longtemps Sébastien Blache qui travaille au Grand, qui est le paysan du Grand Laval et qui est comme moi ornithologue et bagueur d'oiseaux. On se connaissait parce qu'on baguait tous les deux les oiseaux dans les années 2000. Et il me dit au moment où j'arrive, ah bah génial, nous on a un projet ici de suivre réellement toute la biodiversité de la ferme du Grand Laval. Est-ce que tu ne voudrais pas nous aider à monter ce projet ? Donc voilà, et c'est là qu'est né, et qui était déjà un peu né, l'association Réensauvager la ferme.
On va en parler de ce projet et comment la ferme a évolué vers des choses plus vertueuses ici, notamment dans ce verger. Mais avant, retournons à Paris. Il y a beaucoup de citadins en France, forcément. Est-ce que à Paris, on peut observer des champs d'oiseaux, des oiseaux ? Est-ce que quand même en ville, alors je ne sais pas, c'est une question candide, mais est-ce que là aussi, il y a de l'oiseau quand même ?
Bah, il y a de l'oiseau.
Alors, il y a le pigeon beaucoup, mais...
Il y a le pigeon, mais pas que. Évidemment, moins que dans des milieux ruraux. Quoique, parfois, si on compare un point où on se met, on écoute tous les oiseaux qu'il y a en plein champ et en pleine ville, on peut avoir une diversité plus élevée en ville, surtout si on a un parc à côté. Et ça va vraiment dépendre. En ville, en tout cas, on a beaucoup d'oiseaux qui sont des anciens oiseaux des falaises qui sont habitués aux bâtiments, donc des oiseaux rupestres. On a le rouge-queue noir, c'est le cas des hirondelles, des martinets. Sur les toits, maintenant, il y a des goélands qui nichent dans la plupart des villes.
Ils y sont bien, donc, ces oiseaux. Ils ont trouvé quelque chose, en tout cas.
Voilà, c'est juste certaines espèces, évidemment. Ouais. Il y a des espèces qui ne s'adaptent pas du tout à la ville parce qu'il n'y a pas les habitats qui leur conviennent. Mm-hmm. Mais pour certaines, la ville constitue un habitat tout à fait intéressant dès lors qu'on y trouve à manger, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des espaces verts avec une gestion assez écologique, qui favorise les insectes, avec un vieillissement des arbres qui va permettre aux oiseaux de nicher dans des cavités. Mais on peut, dans les villes, accueillir beaucoup d'espèces. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a quelques espèces d'oiseaux qui sont exclusivement dépendantes des maisons, des immeubles ou des maisons humaines. Et c'est le cas, Simon en parlait tout à l'heure, du martinet. Le martinet noir ne niche plus que dans les maisons, sous nos toits.
On les a avec nous, sous nos toits. Alors, vous m'avez parlé de réensauvagement. L'ensauvagement a été utilisé de manière politique très, très, on va dire, très agressive un temps, voire inacceptable. Réensauvagement, il y a là du vertueux. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous y mettez derrière ?
Alors, on y met vraiment déjà une posture philosophique qui est accepter... assumer que toute la production de céréales, de poules, on entend les poules derrière, de brebis, etc. C'est pas uniquement le paysan, la paysanne qui en est responsable, c'est l'ensemble des dynamiques du vivant, des dynamiques du sauvage qui font pousser l'herbe, la photosynthèse, les insectes pollinisateurs qui permettent aux plantes de se reproduire, la vie des sols. C'est toutes ces dynamiques sauvages qui nous permettent de nous nourrir. Donc c'est vraiment cette approche de coproduction entre l'humain et le sauvage qui est déjà la première vision du réensauvagement. Et après, donc c'est pas laisser complètement uniquement le sauvage, c'est accepter de faire une place au sauvage et ensuite de laisser une place au sauvage peut-être plus spontanée sur les marges. Notamment là ici, on est au milieu du verger, mais il y a beaucoup de haies, beaucoup de tas de bois, beaucoup de mares, des endroits où spontanément, là on laisse la nature, le végétal reprendre son libre cours.
C'est ce qu'on fait de manière récente. À quel moment on décide d'arrêter le sauvage ? À quel moment l'humain se dit on arrête tout ça et on encadre tout, on dirige, on manage ?
Ça fait quand même longtemps que l'humain... mais en fait, c'est pas binaire, c'est pas forcément tout ou rien. L'humain a toujours eu besoin déjà de défricher, en tout cas les Homo sapiens en Europe, parce qu'il y a des peuples qui vivent dans la forêt, en Afrique, en Amérique du Sud. Mais en Europe, on a très rapidement eu une approche de défrichement pour avoir un espace qui nous mettait à l'abri des prédateurs. Il y a quelque chose qui est très ancré dans notre pratique de ce besoin d'ouvrir les habitats, de faire place nette, de contrôler. Mais après, ce besoin croissant de contrôle sur la nature, je pense que les grands monothéismes l'ont encouragé, de domination de l'humain sur la nature. Après, les scientifiques et les philosophes du 17e, 18e, et notamment Descartes, ont aussi nettement encouragé la domination.
Nous séparer du corps et de l'esprit, c'est ça.
Et donc, ils nous ont éloignés de nos anciennes racines, peut-être animistes, et en tout cas analogistes. Et du coup, là, on est dans un peuple maintenant très froid, distant vis-à-vis des éléments qu'on doit contrôler, gérer. Et là, l'idée, c'est d'apprendre à réhabiter avec et plus contre.
Alors ici, on est dans les éléments, vraiment. Cette ferme a été, vous l'avez dit, reprise en 2006, je crois.
Oui.
Avec, vous m'avez dit, de nouveaux oiseaux. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'a fait l'humain pour que l'oiseau revienne? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu, j'imagine, cet réensauvagement. Mais concrètement, c'était quoi?
Concrètement, ça a été beaucoup planter des arbres. En fait, ici, on était sur d'anciens grands champs de maïs avec plus aucune haie. Et là, si vous voyez où on est, ça ne ressemble pas du tout. Et donc, il y a beaucoup d'arbres qui ont été plantés. Il y a beaucoup aussi de buissons, de hautes herbes qui sont laissées pousser sur les bords. Et puis, des zones humides. Ça, c'est très important. Et là, depuis tout à l'heure, on entend
un petit marais, hein, c'est ça.
Il y a un petit marais là. Et on a 22 mares sur la ferme, et dont des grandes mares. Depuis tout à l'heure, on entend au loin, alors les poules font beaucoup de bruit, mais un oiseau qui est la bouscarle de Séti, qui est un oiseau des milieux humides, qu'on a maintenant, on en a 5 ou 6 couples dans toutes les haies autour d'ici. Qui est là, écoutez.
Ah, le dindon s'est pointé au milieu. Hein.
Bon, elle chante très
fort. On va essayer de parler doucement.
Et ça, c'est une espèce qui est arrivée avec la recréation des haies et en plus de laisser de l'eau. Ça, c'est vachement important parce que parfois, il y a une lutte contre l'eau qu'on veut pas accepter. Puis par contre, on a besoin d'eau pour cultiver. Mais là, il y a tout un marais qui, avant, l'ancien agriculteur s'obstinait à essayer de le combler. Puis chaque année, il revenait parce que l'eau avait envie d'être là. Et plutôt que de se battre, autant laisser ce marais s'exprimer. Et il y a toute une faune et une flore incroyables dedans.
Les oiseaux, donc, quel est... Il y a une fonction du chant des oiseaux. J'ai envie d'aller juste un peu plus loin. C'est que faire revenir des oiseaux, c'est bon pour nous aussi, égoïstement. Est-ce que le chant de l'oiseau, il a un effet sur l'être humain, sur Sapiens, comme vous disiez?
Ouais, ça a été montré, effectivement. Alors déjà, tout bêtement, les maisons en ville se vendent plus cher si on entend des chants d'oiseaux que si on n'en entend pas. Là, il y a une étude qui a été montrée. Et en essayant de supprimer toutes les variables qui pouvaient prêter à confusion. Donc c'est, en tout cas, en Allemagne, ça a été montré. Et l'autre élément qui a été montré, c'est le chant des oiseaux et la présence d'espaces verts. C'est difficile de faire la part entre les deux, mais permet de lutter contre les dépressions et permet aux patients de guérir plus vite dans les hôpitaux.
Les oiseaux, il en faut. Des arbres, il en faut. Arrêtez de planter du béton. Plantons des arbres. Ça fera du bien à tout le monde. J'ai dit tout à l'heure, je voulais qu'on fasse des définitions. Je voudrais définir le mot oiseau. Vous allez me dire, c'est facile de le définir. Mais non, parce que j'ai regardé tout à l'heure avec Simon, l'autre invité, et il m'a montré sur Internet toutes les catégories pour arriver au mot aigle royal. Alors, il se passe plein de choses. Et si j'ai bien compris, l'aigle royal et notre dindon font partie quelque part, alors je crois qu'il ne faut pas dire famille, mais de
classe.
La même catégorie,
même
classe. Voilà. Ouais. Alors, l'oiseau, c'est quoi? C'est au-dessus de tout?
Alors, c'est comme les mammifères, c'est comme les reptiles, c'est comme les poissons. Ce sont les classes. En dessous, effectivement, il y a différents ordres. Donc, dans les ordres, on a les passereaux, les passeriformes, on a les rapaces. Et encore, il y a deux ordres parmi les rapaces, parce qu'il y a les rapaces classiques, la buse et tout. Puis il y a les faucons, les falconiformes, qui sont encore à part. Puis il y a les rapaces nocturnes. Ouais. Et donc, ensuite, en dessous de la classe, on a les familles. Par exemple, au sein des passereaux, on va avoir la famille des hirondelles, on va avoir la famille des bergeronnettes, qui sont les motacillidés. Et ensuite, on va avoir le genre. Donc le moineau, son genre, c'est moineau en français, passer en latin. Il y a le moineau domestique et le moineau friquet. Puis l'espèce, le moineau domestique est une espèce, le moineau friquet est une autre espèce.
À plein d'endroits, on voit des oiseaux donc autour de nous. On a, j'imagine, la possibilité de voir toutes ces classes, toutes ces catégories au muséum où vous étiez, si quelqu'un et si des familles se baladent à Paris. Je crois que c'est incontournable que d'y aller pour comprendre là où on vit et l'environnement dans lequel on vit.
Oui, la Grande Galerie de l'Évolution, effectivement, je le conseille absolument, c'est merveilleux. Et en plus, après, une fois que vous avez visité la Grande Galerie de l'Évolution, sortez vous promener tout simplement dans le Jardin des Plantes, qui est aussi magnifique. Et là, en ville, l'une des caractéristiques aussi des oiseaux en ville, c'est qu'ils se sont souvent habitués à la proximité avec les humains, plus qu'ailleurs encore. Et du coup, on les observe très près, on observe les jets à 2 mètres, ce qu'on ne peut absolument pas voir à la campagne. Ouais. On observe les troglodytes, les rouges-gorges, les pouillots tout près. Voilà, ouais. Et même dans Paris, au Jardin des Plantes, ça permet de rendre un peu concret ce qu'on a vu avant à la Grande Galerie de l'Évolution.
Alors, on approche de la fin de cette interview, mais quand même, le réchauffement climatique sur les oiseaux, son impact, c'est quoi en 2 phrases?
Alors, en 2 phrases, c'est surtout des questions de décalage entre le moment où ils doivent se reproduire, notamment pour ceux qui reviennent de loin en migration, et le pic d'émergence de leur proie. C'est-à-dire que si jamais ils n'arrivent pas assez tôt, et que leurs proies, elles, les insectes, ils répondent au climat local, elles émergent beaucoup plus tôt et du coup, leurs jeunes, ils n'ont plus de quoi les nourrir suffisamment. Et donc ce décalage cause de moins grande production de jeunes et du coup une diminution des populations.
Pour terminer, Maxime, sur votre t-shirt, il y a un colibri. Est-ce qu'il vous touche particulièrement cet oiseau?
J'adore les colibris. Alors le colibri, on n'en a pas en France. On a un insecte qui ressemble au colibri, qui est le sphinx colibri, mais qui a un papillon de nuit, mais qui vit le jour, histoire de compliquer les choses. Mais en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, on a beaucoup de colibris. Puis j'avais été à Cuba une fois, et là, il y a le plus petit colibri du monde qui vit là-bas, le colibri de Sainte-Hélène.
Qui mesure
3 cm et qui doit peser, je sais pas, 2 grammes. Enfin, c'est incroyable.
Ouais. D'accord, et on les voit battre des ailes.
On les voit même pas battre des ailes, tellement les ailes battent.
On peut plus les voir. Ouais, effectivement.
Et puis ils font du surplace. place et de la marche arrière, surtout. C'est le seul oiseau qui fait de la marche arrière.
Merci Maxime Zucca. Vous participez certainement à l'effet colibri. On en parlera dans une autre émission peut-être. Je rappelle, vous êtes ornithologue, écologue, membre du Conseil national de protection de la nature et vous êtes aussi en collaboration avec le Musée national d'histoire naturelle à Paris. Sophie.
On reste avec nos oiseaux et la chanteuse Soumti qui est originaire de Glasgow, qui a une production musicale très variée, du rap au punk rock, pardon, en passant par le reggae, le tout avec une influence culturelle indienne. Et je vous propose d'écouter son titre « Fly My Bird ».
Up so high, I have set you free. You are no more locked up in a cage. You belong to me. Fly my bird, you are free.
Vous êtes toujours sur Radio Méga 99.2, échange et regards spécial printemps, je le répète. Nous venons de passer un moment très agréable avec Simon Piquet et Maxime Zucca. Et maintenant, nous accueillons Pierre Sylvain pour la chronique de cet échange et regards, notre moment poésie.
Oui,
bonjour Pierre Sylvain. Donc, eh bien, comme les oiseaux, tu vas babiller, chanter, gazouiller, jaboter, piailler, roucouler et caracouler, n'est-ce pas ?
Totalement, c'est exactement ce que je vais faire, Sophie. Alors bonjour à tous, merci de me recevoir. Très content de revenir dans Échange et Regards et surtout très content d'être à la ferme. Et oui, j'adore cet environnement parce que ça réunit mes deux passions, la merde et les grosses cochonnes. Alors oui, je suis très content. vent. Allez, on fait la chronique. C'est le printemps, la saison des amoureux. Oui, oui, quand même. C'est le moment pour nos amis célibataires de remonter en selle pour choper de la gazelle. C'est fou d'ailleurs comme il y a d'expressions animales pour parler de drague. Quand une personne veut absolument trouver sa moitié par toutes les manières, on dit qu'il est en chien. Quand vous organisez un rendez-vous et que la personne ne vient pas, on dit qu'elle a posé un lapin. Et quand vous avez une vingtaine d'années, que vous êtes service civique, que vous faites des chroniques dans Échange et Regard et que vous êtes sur Tinder, Happn, Adopte un mec mythique, et on dit que vous êtes un charreau, un charognard. Et oui, car les oiseaux et la drague, c'est aussi un sujet. C'est justement le sujet de ma chronique. Ensemble, nous allons voir les différentes techniques qu'utilisent les oiseaux pour draguer, en espérant que les oiseaux inspirent nos auditeurs, voire même certains de nos collègues du 13-14. Alors, étudions la technique de la frégate superbe. Alors, c'est un oiseau marin qui fait plus de 200 cm. La particularité chez le mâle, c'est qu'il a un énorme sac rouge qui pendouille au niveau de son cou. Je vous invite à regarder des vidéos ou simplement regarder le dindon qui est là-bas, qui ressemble. Quand je dis dindon, je parle pas de Bastien, je parle vraiment du dindon qui est présent juste à côté. Alors il a un énorme cou rouge, et cette poche, il s'en sert pour draguer le femelle, et il va la gonfler en chantant, tout en étendant ses ailes pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, il arrive à gonfler son engin, 20 minutes, en chantant en plus. Qui arrive à gonfler son engin pendant 20 minutes en chantant en même temps? Je veux dire, à part Patrick Bruel, personne ne fait ça. Moi, si déjà j'arrive à gonfler mon engin pendant 20 minutes, je peux vous dire qu'à la fin, je ne chante pas. Le seul truc qui sort de ma bouche, c'est un poil pubien, parce que avant l'acte, je suis bien, et après l'acte, je suis plus bien. Autre technique d'oiseau, la danse. Les paradisiers, par exemple. Alors, ce sont des oiseaux exotiques de Nouvelle-Guinée. Pour draguer, ils dansent merveilleusement bien. Une autre particularité, c'est qu'ils changent de couleur. J'ai donc découvert que je drague comme un paradisier. Moi aussi, je danse et je change de couleur. Alors, vous vous dites, mais comment ce beau gosse au micro arrive-t-il à changer de couleur? Je vais vous expliquer. Pour changer de couleur, pour pouvoir draguer correctement, il faut ne pas manger de la journée, ensuite boire un maximum d'alcool dans un minimum de temps, puis vous tournez, et par la suite, vous allez commencer à devenir tout pâle, vous allez sentir des petits grumeaux monter dans votre gorge. À ce moment précis, vous prenez vos deux mains, vous vomissez dedans, puis avec vos mains, vous prenez votre vomi et vous les tapotez sur votre joue délicatement. Vous allez avoir du vomi sur votre visage, et donc vous allez pouvoir changer de couleur et donc draguer tranquillement. Ensuite, il y a d'autres techniques, comme celui du pigeon. Alors, cette technique consiste à payer absolument tout ce que désire la personne qu'il essaye de séduire. C'est une technique très utilisée chez les CSP plus de Paris. Ensuite, il y a la technique du canard qui drague tout en rassurant son conjoint ou sa conjointe au téléphone. Il est reconnaissable par sa posture de victime et surtout à son chant. Généralement, il dit des phrases du genre « Oui, oui, je t'aime bébé, non, c'est toi qui raccroche, raccroche, vas-y, s'il te plaît, non, raccroche, toi tu raccroches en premier. Tu vas raccrocher, mon Dieu !» Bon alors, après, même si ma chronique ne vole pas haut, j'espère que grâce à cette technique, vous allez réussir à vous envoyer en l'air et trouver l'oiseau qui acceptera de partager votre branche. Sur ce, merci de m'avoir écouté.
Merci Pierre-Sylvain.
Mais de rien, Sophie.
On espère que tes conseils serviront à nos auditeurs. D'ailleurs, voilà, appel au témoignage, hein, si jamais vous testez et que ça fonctionne.
Envoyez-nous les vidéos.
Simon et Maxime, pardon, je suis désolée, hein, après cette chronique, là, il faut que je retrouve ma voix. Il s'agit bien de ça, hein, les oiseaux et la... Enfin, pas forcément ce qui a été dit, mais en tout cas la drague pour la reproduction, hein, chez les oiseaux, leur chant.
Ça occupe beaucoup. Alors, le chant, c'est effectivement de la drague pour la reproduction. Après, il y a les parades nuptiales dont tu parlais pour les paradisiers. Bon, je ne comprends pas qu'on appelle ça des canards, parce que les canards, ils sont vachement violents sexuellement en général. Et même, ils ont tendance à violer les femelles. Et puis, la plupart des oiseaux, quand même, sont assez mignons. Ils restent en couple pour l'année. C'est un truc qu'on ne sait pas forcément, mais en couple libre. C'est-à-dire que, quand même, de temps en temps. Voilà. Parce que pour assurer une petite diversité génétique.
Plus des oiseaux qui aussi, eux, sont en couple à vie. Plusieurs oiseaux, vraiment.
La majorité reste en couple à vie, mais avec des petites incursions.
Ah oui, pardon, vous parliez pour l'année, mais je me disais juste pour la saison, puis qu'après la saison d'après. Pour tout le temps. Ouais. Donc c'est plutôt beau. Et en parlant de chant ou de cri, parce que je sais que c'est pas la même chose, hein, le chant et le cri des oiseaux, mais je vous ai préparé un petit blind test pour tous les deux. Donc c'est juste que je parle chant ou cri parce que il y aura des deux. Donc l'idée, c'est que de voir si vous reconnaissez ce que je vais vous envoyer. Alors on commence par le premier.
On transpire, là.
Alors. Mais peut-être qu'il faut des casques pour que tout le monde entende. Ouais, moi je suis en train de me dire à la technique et Pierre-Sylvain. Alors, hop, je relance. Mais nous-mêmes, nous n'entendons pas.
Ah, le merle noir.
Oui. un chant qu'on entend particulièrement dans les villes. Enfin, en ce moment, je sais qu'en allant au bureau à Chabeuil, il y en a un qui chante. Et à chaque fois, je m'arrête 5 minutes pour l'entendre parce que à chaque fois, ces phrases ne sont pas pareilles. Et c'est vraiment un des chants que je préfère chez les oiseaux.
Vous êtes très fort. Bon, j'ai commencé, je me suis dit, voilà, le merle qu'un peu tout le monde connaît. C'est vrai qu'on le reconnaît bien, là. Enfin, moi, c'est, je me dis aussi, tiens, c'est quelque chose que un chant que j'entends régulièrement.
Mais on peut le confondre avec la fauvette à tête noire qui chante beaucoup en ce moment.
Est-ce que j'en ai une, d'ailleurs? Non, j'en ai pas. Alors, le second... Hop.
C'est dans mon casque, ça, ou c'est dehors? Ah, un rossignol. Un pic vert, quand on entendait.
C'était un pic vert,
on est troublé entre ce qu'on entend dans le casque et ce qu'il chante.
Et l'extérieur. Et effectivement, c'est bien le beau rossignol.
Il chante beaucoup la nuit. C'est un des rares passereaux qui chante la nuit. Et alors, tant qu'il chante la nuit, c'est a priori l'indication qu'il n'a pas trouvé de femelle. Et quand il a trouvé une femelle, il ne chante plus que le jour, il ne chante plus la nuit.
D'accord.
Et la nuit, son chant se porte à plus d'un kilomètre, un kilomètre cinq. Donc c'est assez.
Oui, Bastien.
Non, je voulais juste demander parce que j'ai entendu la nuit. Effectivement, j'ai eu entendu la nuit. J'étais très étonné d'entendre un oiseau la nuit. Alors, ça devait être un rossignol. Et je me posais aussi la question des oiseaux en hiver. Parce que moi, j'en entends chanter en hiver. Et je me dis, ben, c'est le réchauffement climatique. Peut-être pas du tout.
Alors, en hiver, il y a des oiseaux qui restent sur leur territoire, qui chantent. Ou alors des oiseaux qui migrent quand même, mais qui restent en France. C'est notamment le cas des rouges-gorges qui peuvent faire des petites migrations. Par exemple, les rouges-gorges qui sont à Paris pourraient descendre à Marseille. Et en hiver, c'est principalement les rouges-gorges qu'on commence à entendre. Cette année aussi, il y a eu les pinsons des arbres et les mésanges charbonnières qu'on a commencé à entendre pas mal. Et c'est des oiseaux qui chantent l'hiver soit pour s'entraîner, soit pour un peu déjà tester les limites de leur territoire.
Et puis, le printemps est décalé selon les espèces. Donc la griffe d'Rennes, par exemple, elle commence à chanter normalement en décembre parce qu'elle va commencer à nicher normalement en janvier-février, alors que d'autres commencent beaucoup plus tard. Mais donc, on entend des chants presque toute l'année. Le moment où on entend le moins de chants, en fait, c'est juillet-août, quand les oiseaux muent et sont très calmes.
Un troisième son ?
Allez.
Vous êtes très fort.
Attends, on entend très loin, mais je pense que c'est la griffe musicienne, mais j'entends mal.
Oui, je suis d'accord, c'est vrai que le son, il n'est pas très fort. Mais c'est bien la griffe musicienne. Okay. Oh là là, alors là, franchement. Mais en plus, je me suis dit que ça tombait bien. On parlait juste de griffe juste avant. Paf. Oui.
Ouais, alors elle, c'est facile à reconnaître parce qu'en fait, elle répète trois fois ou quatre fois chaque strophe. Donc elle peut vraiment inventer, elle peut imiter plein d'oiseaux, mais elle les répète assez fort, de manière assez sonore. Donc c'est un oiseau dont on peut apprendre le chant assez rapidement. Et d'ailleurs, je fais une petite promo, mais pour apprendre les chants d'oiseaux, et notamment pour les enfants, moi j'ai coécrit un livre qui s'appelle « Écoute les oiseaux » avec une super dessinatrice qui s'appelle Léna Mazilou, et ça marche avec une application qui s'appelle Birdie Memory, qui fait chanter les oiseaux, qui les anime sur le livre. On a des petits quiz pour apprendre à connaître les oiseaux chantés. Il y a 20 oiseaux, puis là on est en train d'en écrire un deuxième opus. Chez Super. Albin Michel Jeunesse.
Super. On continue, j'en ai quelques-uns, puis en plus c'est bien parce que c'est commenté tout ça, c'est fantastique. Alors, on change de niveau.
Ça fait un peu ouais, basse-cour là, mais c'est des oies quoi.
On change d'univers.
Ouais.
Presque. Ils sont plutôt sur l'eau.
Des bernaches ? Ça, c'est pas très...
C'est pas facile. C'était des cygnes.
C'était des cygnes même. Ah. Ouais. C'est cygne chanteur alors.
Je n'avais que signe, peut-être.
Ouais, c'est parce que c'est pas le tuberculé qu'on a chez nous. Ok. Bon,
c'est pas celui. Non, mais c'est bien d'avoir des pressions. Donc ça, c'est pas ce qu'on va entendre chez nous,
non.
Chez nos signes à
non,
nous.
Non, non, non.
C'est pour ça, du coup, c'était un peu piégeux ce que j'ai envoyé. allez, j'en ai deux. Celui-là, je l'aime bien parce que j'en ai un chez moi.
Ouais.
Le troglodyte mignon.
Non. Attends. C'est le rouge queue à fond blanc.
Ah,
c'est le rouge queue à fond blanc. Oui, j'en ai. Alors moi, c'est pas. Je pense que c'est pas un rouge queue à fond blanc que j'aime. Mais j'ai un rouge queue. J'ai une famille de rouge queue
noir.
Que...
Le rouge
oui,
queue noir,
rouge queue noir.
Ils se connaissent. Qui fait un petit bruit de papier qu'on froisse un peu.
Et puis il fait des petits queues très souvent. Donc donc je prie toujours parce qu'il y a beaucoup de chats dans le voisinage. Donc je prie toujours pour que les familles soient là. Mais ils sont là aujourd'hui. Et allez, un dernier.
Alors on est chez les rapaces. Alors les cris d'alarme de rapaces, ça c'est un cri près du nid, c'est très compliqué. Mais on est sur un faucon, je pense, peut-être un pèlerin ou un cresserelle. Cresserelle, ouais.
En faucon cresserelle, mais bravo sur les rapaces.
Les cris de rapaces, c'est pas facile.
Bastien, dernier mot, parce qu'on arrive, je vois qu'on arrive à la fin de cette...
Un petit dernier mot, ouais. pour poser une question, mais c'était... il nous a parlé de tempo, de mélodie, enfin, c'était pas le mot, mais en gros de musique. Il y a ça derrière, de la musique, en fait, c'est comme ce que l'on joue chez les oiseaux. Ils arrivent, ils jouent de la musique.
Ils jouent de la musique et d'ailleurs, on a souvent une approche très froide. J'en parlais tout à l'heure, les oiseaux chantent pour défendre leur territoire, pour attirer leurs femelles. Ils chantent aussi probablement pour se faire plaisir et pour habiter de manière sonore leur paysage, leur environ, comme nous, on mettrait, des tableaux chez nous pour vivre dans un environnement qui leur plaît. Ils construisent leur environnement à travers leur chant, semble-t-il.
Mais c'est... Tout à fait. On a beaucoup de ce qu'on a lu, effectivement, des personnes qui disent c'est pas que la reproduction, c'est pas que le territoire. Il y a aussi pour se faire plaisir, probablement. Donc, études à suivre et à propos à suivre. Merci à tous les deux. C'est la fin de cet échange de regards spécial printemps. Donc, je répète, nous étions en compagnie de Simon Piquet et Maxime Zucca. Et Bastien Hénard à mes côtés, pardon. Et puis, Pierre Sylvain pour la chronique. Et Colline, qui n'est pas avec nous, mais qui est à la technique. Et heureusement, merci à elle. Merci beaucoup à tous. À jeudi prochain. Bonne journée.